Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Eh bien, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 avril. Et en avril, ne te découvre pas Nafil. Voilà, ça c'était dit. J'avais envie de le dire. Alors, j'espère que les poissons d'avril sont passés hein, et les imbéciles sont restés. En général, c'est ce qu'on dit aussi. Voilà, ça c'est dit. Écoutez, nous allons commencer. Donc, la semaine dernière, je vous ai donné un avant-première sur les recettes. Donc, j'espère que vous avez déjà tous vos ingrédients de tout près, de façon à pouvoir nous suivre la recette et puis pouvoir passer à table. C'est le but de l'émission. C'est de préparer ensemble ces différentes recettes et puis de passer directement à table sans que vous ayez courir à droite et à gauche. Alors, en ce qui concerne nos recettes, aujourd'hui nous allons voir donc les verrines de champignons et jambon à la crème. Un petit peu de verdure, ça fait du bien aussi. Donc pour cela, vous aurez besoin de 600 g de champignons de Paris lavés et émincés. Une cuillère à soupe de persil haché, frais ou surgelé, c'est comme vous le souhaitez, comme vous avez. Une cuillère à soupe de crème fraîche, une pincée de poivre, deux pincées de sel, quatre tranches de jambon blanc. Si vous l'avez pris un peu fumé, ça peut être sympa aussi. Une cuillère à soupe de ciboulette ciselée. Là, c'est pareil, vous pouvez en ce moment, elle sort dans les jardins, donc vous pouvez la prendre fraîche ou surgelée si vous n'avez pas dans votre jardin. Et puis, une cuillère à soupe de fromage frais style Saint-Mauré et quelques baies roses pour la déco. Au côté ustensile, vous aurez besoin de 4 verres, un couteau et un saladier. Au niveau de notre filet de truite saumonée ou saumon ou filet de saumon, au beurre d'échalote, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de farine, 125 g de beurre froid coupé en dés, 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc ou rouge, c'est comme vous voulez. Hein. Si vous n'avez pas de vinaigre blanc, vous pouvez prendre du vinaigre rouge. 3 cuillères à soupe de vin blanc sec, de l'huile d'olive, une pincée de poivre, 2 pincées de sel, 4 filets de truite saumonée ou de saumon. Donc j'espère que vous avez demandé à votre poissonnier de vous enlever la peau et puis de vous mettre la truite saumonée en filet, c'est plus sympathique à cuire. Et une échalote finement hachée, 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse et 600 g de brocoli, ça c'est pour les légumes. Vous aurez besoin d'une casserole au niveau des ustensiles, une casserole, un fouet, un plat allant au four, un couteau, une poêle, du papier aluminium, un cuit-vapeur, un bol ou une saucière et un plat style saladier. Vous savez, un légumier, ce qu'on appelle un légumier. Et puis, pour le dessert, nous allons préparer les œufs au lait. Donc là, c'est une recette tout à fait simple. Vous allez prendre, donc, vous aurez besoin d'un litre de lait, une gousse d'ail, une gousse de vanille, parce que l'ail dans le lait, les œufs au lait, ça ne va pas le faire. Donc, une gousse de vanille, excusez-moi. 6 œufs et 125 g de sucre. Pour les ustensiles, vous aurez besoin d'une casserole, d'un fouet, d'un plat allant au four, d'un couteau, d'une cuillère en bois, d'un saladier et de 4 à 8 ramequins allant au four. Alors, pourquoi 4 à 8 ramequins, parce que un litre de lait, si vous avez des grands ramequins, c'est parfait. Si vous avez des plus petits, vous en mettrez le double, ce qui vous permettra de les manger le lendemain aussi, ça peut être sympa. Voilà, écoutez, on a fait la liste de vos ingrédients et de vos ustensiles. Eh bien, nous allons commencer par les œufs au lait. Donc, pour cela, il faut que vous prévoyiez de faire préchauffer votre four à 150 degrés. Donc le thermostat, c'est à peu près 5. Tout dépend de votre four, mais c'est 150 degrés, thermostat 5. Dans une casserole, vous allez verser 1 litre de lait et la gousse d'ail, vous allez la fendre en deux. Comment ?
De vanille, hein, t'as encore dit ail ?
Ah oui, j'ai dit ail. Aïe, vraiment. Et puis moi, j'aime bien l'ail, donc, mais pas dans cette recette-là.
Non.
Pas là, ça ne va pas le faire. Ça sera peut-être à étudier, mais pas celle-là. Pas dans les œufs au lait. Donc, une gousse de vanille, excusez-moi, donc fendue en deux, dans le sens de la longueur. Ça, c'est important. C'est ce qui va permettre à votre vanille, à la chaleur, de s'évaporer de cette gousse et va prendre, le lait va prendre ce goût de vanille. Et vous allez le faire cuire 10 minutes en remuant avec une cuillère en bois pour éviter que le lait accroche au fond de la casserole. Alors c'est important parce que le lait qui accroche au fond de la casserole, je peux vous dire que c'est pas terrible. Ça, c'est d'expérience. Nathalie, tu nous diras au bout de 10 minutes au niveau de la cuisson. Okay. Alors, on va pas toujours tout préparer d'un seul coup, mais au bout de 10 minutes, je vous dis ça, c'est de façon à ce que vous puissiez prévoir. Surtout, vous allez laisser infuser votre vanille au bout de 10 minutes. Voilà, au bout de 10 minutes, on éteindra le feu et on laissera infuser la vanille. En parallèle, en attendant que notre lait chauffe et infuse la vanille, on va prendre un saladier. Et on va mettre 6 œufs dedans. Et puis, les 120 grammes de sucre. Et vous allez fouetter, c'est-à-dire blanchir votre œuf et vos œufs et votre sucre. Hein, donc, comme je dis toujours, force et courage. Parce que là, c'est vraiment le fouet. Alors, pour les petits feignants, vous pouvez prendre un batteur fouet. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime bien quand c'est... c'est au fouet parce que vous voyez la mousse arriver et vous voyez votre appareil qui devient jaune pâle. Donc force et courage pour ceux qui fouettent. Pendant que vous fouettez, je pense que Nathalie, tu vas nous dire quand et comment les œufs sont arrivés dans nos assiettes.
Alors, comme tu le sais, chaque Français consomme en moyenne 216 œufs par an.
Wow, c'est beaucoup
quand
même.
C'est énorme.
C'est énorme.
Soit plus de la moyenne européenne, qui est d'environ 200 œufs. 97% des Français en mangent, ce qui est quand même aussi beaucoup. En 2015, les œufs bio représentaient 13% du marché en volume et les ventes d'œufs issus d'élevage label rouge en grande surface représentaient 11% de part de marché en volume. Les œufs d'élevage en plein air, 20%. Les œufs standards représentaient la majorité du marché avec 59% de part de marché en volume. Alors, à la préhistoire, ce qui ne date pas d'hier, les œufs de diverses espèces d'animaux sont sans nul doute consommés depuis les temps les plus anciens par les premiers hommes. D'autant que les œufs de n'importe quelle espèce pondeuse, y compris la tortue et l'alligator, peuvent servir de nourriture. À l'époque, les chasseurs-cueilleurs, les œufs de canne, d'oie, de pintade, de pigeon, de caille, voire d'autruche. De tous les volatiles dont on pouvait piller les nids, étaient ramassés. Gobés, ils nourrissaient quand la viande faisait défaut. Un moyen de parer au manque de protéines animales. De même, la période des premières domestications d'oiseaux pour la consommation d'œufs est inconnue. Certains écrits historiques indiens racontent quand la poule était déjà domestiquée en 3200 avant Jésus-Christ. Des écrits égyptiens et chinois indiquent pour leur part que les poules pondaient des œufs pour l'homme en 1400 avant Jésus-Christ. Après, à l'Antiquité, les Phéniciens se régalaient des œufs de l'autruche, tandis que dans l'Antiquité des Romains, les Romains consommaient ceux du paon bleu et les Chinois ceux du pigeon. Bien que le célèbre gastronome romain Apicius, que tout le monde connaît, hein, bien évidemment, donne dans son ouvrage culinaire diverses recettes de flans et d'omelettes, l'œuf restera longtemps un aliment marginal, d'abord à cause d'interdits religieux et de croyances superstitieuses, ensuite pour des raisons économiques. En effet, pour le peuple, il semblait nettement plus rentable d'attendre que les œufs se transforment en poules ou en coques. Donc faisaient exception à cette règle les Chinois, qui le considéraient comme une excellente source nutritionnelle et en ont répandu l'usage dans tout l'est de l'Asie. Au Moyen-Âge, aucun écrit conservé depuis le Moyen-Âge en Europe ne mentionne l'œuf. Peut-être parce que, tout comme la viande, il était interdit par l'Église catholique d'en consommer les jours maigres, c'est-à-dire pendant plus de 160 jours par an. Et comme les ne suivaient pas le calendrier liturgique, mais celui des saisons et de leur cycle biologique, elles pondaient abondamment durant le carême, période où la lumière du jour est de nouveau abondante. On les conservait alors dans de la graisse liquide ou de la cire jusqu'à Pâques, jour faste par excellence. Ainsi, c'est pour améliorer leur apparence qu'on les décorait abondamment. On a aussi l'histoire des œufs de Pâques, du coup. Les traditions des œufs de Pâques est un emprunt de la chrétienté à des rites païens. Par exemple, les Égyptiens considéraient l'œuf comme symbole de la fertilité, la renaissance, la vie nouvelle. C'est ainsi que l'œuf en est venu à symboliser la résurrection du Christ. Les œufs de Pâques étaient à l'origine des œufs de poule ou de canard, décorés de couleurs vives avec des colorants végétaux. Les 17 et 18e siècles ont vu la fabrication de jouets en forme d'œufs qui ont été donnés aux enfants à Pâques. Les œufs en chocolat sont apparus en Europe au début du 19e siècle. En France et en Allemagne, ils étaient faits de chocolat solide, la technique du chocolat moulé n'ayant pas été mise au point. Au milieu du 15e siècle, en Europe, l'œuf de la poule a graduellement pris le pas sur tous les autres. On pense que les poules utilisées aujourd'hui dans la production des œufs sont des descendantes des poules arrivées en Amérique à bord des navires de Christophe Colomb. Des lignées originaires d'Asie, c'est probablement la fiabilité du chant du coq chaque matin et la régularité avec laquelle la poule pond des œufs qui ont poussé les Chinois à choisir des oiseaux horloges vivantes. C'est marrant.
C'est des histoires, mais
c'est dingue.
Moi, je trouve ça super parce que en plus, on est dans le mois de Pâques. Hein, on va y arriver. Hein, lundi de Pâques, je pense que c'est de mémoire, c'est le 18 avril.
Ouais.
Donc voilà, c'était bien placé là. Vas-y, on y va pour le 16e siècle, le 17e siècle.
Alors ouais, au milieu du 17e siècle, on connaît au moins 60 recettes pour apprêter cet aliment qui figure de plus en plus souvent au menu. Donc, au XVIIIe siècle, on prête à Louis XV, qui raffolait d'œufs à la coque et de meringue, d'avoir développé l'aviculture à Versailles. Les poulettes étaient installées jusque dans les greniers et fournissaient quotidiennement les coquetiers royaux. Sous le règne de ce roi, les Français consommaient 60 œufs par an. On rappelle qu'on est à 215, je crois, aujourd'hui.
216, oui.
216. Et par personne, et Menon disait de l'œuf, c'est un aliment excellent et nourrissant que le saint et le malade, le pauvre et le riche partageaient ensemble. Au XVIIIe siècle, la découverte par les Français d'une technique de couvaison artificielle que pratiquent les Égyptiens en ayant recours à des fours à basse température suscitera le plus vif intérêt chez les éleveurs qui multiplient les croisements. Au XIXe siècle, non pas du tout, c'est pas du coup du tout le XIXe.
Si.
Le XIXe. Des races de poules nettement plus productives sélectionnées par les Chinois feront leur apparition en Occident, créant un véritable émoi chez les éleveurs qui voudront tous posséder quelques-uns de ces nouveaux oiseaux très différents de ceux des races méditerranéennes et européennes connues. Au cours de ce siècle, une centaine d'autres races sont créées, dont certaines que l'on élève que pour la chair, d'autres pour les œufs, d'autres enfin pour les deux usages. Au XXIe siècle, arrive avec son cortège de bonnes et mauvaises idées. D'une part, les poules vont et viennent comme elles le souhaitent, pratiquant le jogging avec assiduité et ne picorant que des bonnes choses, du blé, du maïs. Elles mènent une vie satisfaisante, elles sont heureuses, les poulettes. Et par conséquent, pondent des œufs de qualité. D'autre part, toujours à la recherche de rentabilité et de production maximale, certaines poules sont entassées dans les boxes minuscules, maintenues à température idéale et à degré d'ensoleillement optimal. Le résultat est alors évident. Les œufs sont plus nombreux, mais dotés d'une saveur plus grossière, beaucoup moins fine que celle de leur homologue du plein air. J'en suis ouf. Alors, jusque dans les années 1980, l'œuf sera considéré comme un aliment parfait. C'est une popularité qui décroît lorsqu'on découvrira que son jaune est particulièrement riche en cholestérol, accusé d'être à la cause de maladies cardiovasculaires. Au cours de cette seule décennie, les ventes d'œufs frais chuteront de 25%. C'est énorme. La multiplication des épidémies de salmonellose pendant la même période et jusqu'à très récemment ajoutera encore à cette fatalité. Il est dès lors déconseillé de manger l'œuf cru, qui figurait jusque-là dans le nombre plat, notamment dans la mayonnaise. Depuis quelques années, l'œuf regagne un peu de sa popularité perdue, après que diverses études cliniques aient démontré que pour la majorité de la population, il constituait un aliment d'excellente qualité. En plus des œufs frais, on trouve aujourd'hui dans le commerce des préparations à base d'œufs déshydratés, liquides et congelés. Albumène seul ou jaune seul, œuf entier, albumène et jaune mélangé selon diverses proportions.
Eh ben dites donc, quelle histoire !
Il y a plein de choses à dire, mais on ne sait toujours pas de l'œuf ou de la poule lequel est arrivé le premier.
C'est ça, c'est ça. Entre Christophe Colomb qui l'a ramené, les poulets, c'est infernal. Voilà, c'était... Moi, j'avais envie qu'on parle de l'œuf parce que, bon, déjà, c'est parce que c'est bientôt Pâques. Et puis c'est important. Alors, rien ne vaut, hein, moi, je dis rien ne vaut. Si vous avez la chance d'avoir des vraies poules dans votre jardin, bah, super. Vous récoltez vos œufs, c'est formidable. Et puis, si vous n'avez pas cette chance-là, rien ne vaut les œufs de ferme. Voilà, c'est beaucoup mieux. Moi, je sais que je me fais livrer toutes les semaines d'œufs. Je fais un appel s'il y en a qui en veulent. Je sais aussi que la ferme des mini chapeaux de paille, pour ne pas les nommer, vend aussi des œufs de ferme. Donc, écoutez, vous pouvez vous renseigner et trouver de la variété et des œufs de ferme, je pense, en se renseignant, on trouvera facilement.
Exactement.
Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que notre lait, il est infusé.
Il est infusé.
Eh bien, on va enlever la gousse de vanille qui est à l'intérieur, et avec le dos d'un couteau, on va enlever ces petits grains qui sont à l'intérieur et on va les remettre dans le lait. Et puis, vous savez, l'appareil qu'on a préparé tout à l'heure avec l'œuf et le sucre qu'on a mélangé fortement avec le fouet, eh bien on va le mettre dans le lait qui est encore chaud, et vous allez vraiment bien remuer fortement et avec le fouet de façon à ce que votre préparation lait œuf sucre soit homogène. Et puis vous allez verser dans les ramequins. Et ensuite, vous allez le mettre dans un plat. Vos ramequins, vous les mettez dans un plat qui va au four. Et vous allez enfourner 45 à 50 minutes à 150 degrés Celsius.
C'est une petite question.
Oui.
Est-ce qu'il faut mettre un peu d'eau dans le plat ?
Alors, moi, perso, j'en mets pas.
D'accord.
Mais vous pouvez. On peut mettre un peu d'eau dans le fond du four. Mais franchement, enfin, moi, perso, j'en mets pas.
D'accord.
Voilà,
parce que j'ai toujours vu mon père faire comme ça.
Alors ça va être, on va le faire plus avec les crèmes caramel.
D'accord.
Les crèmes caramel, ça sera une autre cuisson, mais pour ça, ça n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Maintenant, vous pouvez, mais bon, franchement, c'est une autre cuisson. L'idée, c'est que contrairement à la crème caramel où on va mettre de l'eau, elle va cuire un petit peu, pas l'estouffade, c'est pas ça, mais elle va cuire dans l'eau. Là, on va la cuire au four parce que on va essayer d'avoir un petit gratin au-dessus. Hein, donc, et la crème, les œufs au lait, c'est vraiment le petit gratin qu'on veut obtenir.
D'accord.
Voilà. Donc la cuisson est complètement différente.
Ok.
Donc, 45 minutes, Nathalie, tu nous diras où est-ce qu'on en est. Eh bien, écoutez, le temps d'une pause musicale, on se retrouve dans peu de temps.
Chandeliers, it'll be hues like tears for fears. Your love, no, I can't get enough. Those are my cool, but I'm staying alive. Dancing in the rain just to kiss the night of your touch. Oh, it feels like a glove. Oh, yeah. Don't need drama.
just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? 'Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. I wanna dance another beat, no, unless it's with you.
Jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, rebonsoir. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, nous avons fait nos œufs au lait qui sont au four et nous allons préparer les champignons à la crème. Alors, pour cela, on va laver les champignons, les 600 grammes de champignons, et on va les émincer. Alors, finement, hein, c'est plus sympa parce qu'on va les mettre dans des verrines ou dans des gros verres. Hein, c'est comme vous le souhaitez. L'important, c'est que tout rentre. C'est surtout ça. Donc, on va couper les 4 tranches de jambon en lanières. Et puis, les champignons et les jambons, on va les réserver, on va les mettre de côté. Ensuite, on va hacher le persil et ciseler la ciboulette. Donc, je vous rappelle que hacher, c'est avec un couteau et ciseler, c'est avec un ciseau. Et puis, on va réserver. Et puis, dans un bol, on va mélanger le fromage frais. Donc, si vous avez du Saint-Moré, c'est très bien. Si vous avez un fromage frais ou du Philadelphia aussi. Donc, ça se trouve partout. Donc, on va mettre la cuillère à soupe de fromage frais dans le bol avec la cuillère à soupe de crème fraîche. On va y rajouter donc la cuillère à soupe de ciboulette, la cuillère à soupe de persil, la pincée de sel, la pincée de poivre et deux petites pincées de sel. Et puis, donc, dans chaque verre, vous allez déposer les champignons. Alors, pour que ça soit un peu joli, vous allez mettre un tiers de la hauteur de votre verre les champignons. Donc, l'idée, c'est de faire d'abord tous les verres. Donc, on met, donc là, vous pouvez prévoir 4 à 6 verres. Tout dépend de la grosseur de vos verres. Ensuite, donc, vous allez déposer vos champignons. Vous allez déposer par-dessus vos champignons votre jambon. Donc, pareil aux 3 tiers. Et puis, pour finir, vous allez mettre votre crème à la ciboulette par-dessus. Et puis, pour la déco, vous allez prendre un petit brin de ciboulette et quelques baies roses pour la déco. Voilà. Et après, vous pouvez mettre au frais, au frigo. Donc, plus ça sera frais, meilleur ce sera. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas très, très long comme recette. Mais c'est super bon. Moi, j'aime bien. Et surtout, il n'y a pas besoin de cuisson. C'est quelque chose de rapide et assez sympa à manger. Et ça, vous pouvez le prévoir aussi quand vous avez des invités en plus petite verrine. Et vous mettez une petite cuillère à l'intérieur. Et comme ça, ça fait un apéro sympa. Mais en plus petite portion, pas dans des gros verres. Voilà, donc voilà, encore une petite astuce que je vous donne comme ça. Écoutez, pour vous les laisser temps de finir un petit peu, je vous propose d'écouter Nathalie qui va nous parler des origines du champignon de Paris.
Oui, le champignon de Paris. Alors, le champignon de Paris, il descend de l'agarique champêtre, appelé aussi rosée des prés. À l'état sauvage, il est cultivé sous le nom de champignon de Paris ou champignon de couche. Il est reconnaissable à sa chair blanche et à son chapeau rond, tout lisse, d'un blanc velouté. Le champignon de Paris a des lamelles roses lorsqu'il est jeune et elles noircissent en vieillissant. Il est attaché au pied par un voile dont il est, quand il est très jeune. On n'aperçoit pas ses lamelles, puis il s'ouvre en laissant un petit anneau sur le pied. Il s'aplatit en vieillissant, il se déguste aussi bien cru que cuit et se cuisine de mille façons. Donc d'où vient le champignon de Paris ? Alors, en réalité, d'un peu plus loin que la capitale française, voilà, il est le pays d'origine du champignon de Paris, répondant au nom scientifique, attention, de l'Agaricus bisporus, serait l'Égypte, donc les origines égyptiennes. En effet, on trouve le fameux champignon dessiné sur les murs des tombeaux des pharaons, datant de 1450 avant Jésus-Christ. On le retrouve ensuite chez les Romains, qui s'en emparent, gastronome, et en France, ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'on retrouve ce précieux aliment sur la table du roi Louis XIV au château de Versailles.
Eh ben voilà, ben merci. Quelle culture, Nathalie, vraiment tu m'épates.
Ah ouais.
Eh bien, écoutez, il est temps maintenant de préparer. Donc, vous voyez, entre l'histoire des champignons et l'histoire des œufs, ce soir, on se cultive. Donc, on va préparer maintenant la truite. Dans une assiette, vous allez prendre une assiette, mettre de la farine dedans et vous allez passer vos filets de truite ou de saumon dedans, verso, et puis vous allez tapoter pour enlever le surplus de farine et réserver dans une assiette. Voilà, vous faites ça pour chaque filet. Et ensuite, pendant que vous finissez ça, vous pouvez en parallèle mettre dans une poêle un filet d'huile d'olive et puis faire chauffer votre poêle à feu très vif. Et quand l'huile est chaude, vous allez mettre vos filets farinés dans votre poêle. Alors, vous faites attention à vos éclaboussures parce que l'huile chaude peut éclabousser au moment où vous allez mettre vos filets dedans. Et vous faites dorer deux minutes de chaque côté. C'est l'histoire de les dorer de chaque côté pour que ce soit joliment présenté dans votre plat après par la suite. Et puis vous allez les mettre une fois qu'ils sont dorés de chaque côté, vous allez les mettre dans un plat allant au four et important, vous allez les recouvrir de papier aluminium. Votre four est préchauffé à 180 degrés. Et vous allez les faire chauffer entre 10 à 15 minutes selon l'épaisseur de votre poisson. Donc ça, c'est une recette que vous pourrez agrémenter, pas forcément avec la truite saumonée ou le saumon, mais avec n'importe quel poisson. Moi, j'ai choisi la truite saumonée parce qu'on a... On a tendance à l'oublier, cette truite, et pourtant elle a une belle chair et c'est super bon à manger. Ensuite, vous allez dans votre cuit-vapeur, vous allez mettre vos brocolis, vos 600 grammes de brocolis, et vous allez les cuire 15 minutes. Donc vous voyez, votre poisson et vos brocolis vont sortir pratiquement en même temps l'un et l'autre. Et pendant ce temps-là, Nathalie, tu nous diras, tu nous tiendras au courant pour oui. Les 15 minutes. En attendant, on a le temps de d'éplucher et de hacher nos échalotes de les mettre dans une casserole à feu vif avec 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc ou rouge, hein, c'est ce que je vous avais dit au début, et 3 cuillères à soupe de vin, et on va laisser cuire pendant 10 minutes donc notre échalote avec notre vinaigre et notre vin blanc jusqu'à ce que les mélanges soient réduits. Donc vous allez voir, ça fait une certaine quantité quand c'est entier. Quand vous aurez mis dans la casserole, il faut vraiment que ça réduise un petit peu, enfin au maximum, de façon. Donc c'est pour ça que le feu vif est important. Hein. Donc Nathalie, tu nous diras aussi 10 minutes. On va être, tout va sortir à peu près en même temps, hein, je pense. Nathalie, je pense que Nathalie, est-ce que tu n'aurais pas une histoire sur la truite par hasard ?
Parce que moi, je connais la truite par cœur. Alors. Figurez-vous que les truites vivent dans les eaux claires et vives, et principalement en Amérique du Nord, en Europe, dans le nord de l'Asie et dans les rivières de l'Atlas au Maroc. Elles ont été également introduites en Australie et en Nouvelle-Zélande au XIXe siècle. Et selon les espèces, la durée de vie peut varier de 7 ans à plusieurs dizaines d'années. Une truite de 80 cm peut dépasser les 5 kg. Certains spécimens vivant en lac dépassent le mètre et 15 kg. Et les truites n'ont pas d'épines dans les nageoires et elles possèdent toute une nageoire adipeuse à l'arrière, proche de la queue, qui est une caractéristique commune à tous les salmonidés. J'ai que des mots simples ce soir. Bien que la plupart des truites vivent exclusivement en eau douce, certaines espèces, alors je ne dirai pas le mot parce que là c'est un piège, présentent des spécimens qui passent leur vie adulte dans l'océan et remontent les rivières pour se reproduire. On parle alors de truites de mer, truites dorées. Les truites sont carnivores. Elles se nourrissent principalement de vers et d'insectes, mais les espèces et les spécimens les plus imposants chassent également d'autres poissons, particulièrement les vairons. Filets de truites coupés en pavés de truites, les truites arc-en-ciel d'élevage, dont la chair est couleur saumon du fait de leur alimentation, sont parfois appelées truites saumonées.
Merci Nathalie.
Je t'en prie.
Alors, tu peux peut-être nous dire où est-ce qu'on en est dans notre temps?
Alors, on est quasiment... Hop là, à 10 minutes de sortir les brocolis, qu'est-ce qu'il y avait aussi en fait, il y avait tout qui était prêt. Les truites, les brocolis et les échalotes. Encore à 10 minutes.
Il nous reste 10 minutes, il nous reste 10 minutes. Bien, bien, bien. Je ne sais plus où j'en suis ici, ça y est. Je m'y suis. Je vous propose une courte pause musicale et on se retrouve tout de suite. You must be single, that must be why. You sent me some poem the other night. That shit's confusing, I have to say. Oh, you have got some nerve talking that way. Let me know, you would still give us a go. I'm sorry.
Don't try to impress me. I know you're intending to hurt me again. You look like a vision, but now I'm beginning to see through the haze. Don't be so fake.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous voici de retour. Nos brocolis sont à combien de minutes, Nathalie ?
Alors pour les brocolis, je pense qu'il faut regarder peut-être avec une pointe de couteau, mais a priori il reste encore quelques minutes.
Alors, moi, je vous conseille d'éteindre votre cuit-vapeur et de laisser vos brocolis au chaud. Comme ça, ils vont finir de cuire. Ouais. Et il ne faut pas non plus que ça soit trop cuit parce qu'après, ça fait de la bouille. Moi, j'aime pas trop.
Oui,
j'aime
bien quand c'est
un peu croquant. Voilà. En ce qui concerne la sauce, on doit être au même temps, hein. Je pense que la sauce, on va pouvoir s'en occuper, on va pas l'arrêter tout de suite. Par contre, on va éteindre le feu, le four au niveau de, ou alors sortir nos truites du four. Et par contre, on va laisser nos œufs au lait dans le four. Ça, on a encore combien de temps pour les œufs?
Ah, pour les œufs, c'était quoi? C'était 45 minutes?
Oui, c'était 45 minutes.
Oui, il reste encore...
40 minutes même. Ouais. 40 minutes, c'était.
Il reste 20 minutes encore.
Alors, écoutez, on a le temps de... Il reste 20 minutes, hein, tu me dis.
Pour les œufs, oui.
D'accord, écoutez, parfait. Donc, notre sauce est presque prête. On va donc rajouter la crème fraîche. Et puis, on va laisser la crème fraîche de mémoire. Si c'est pour la sauce, on rajoute 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Et puis... On va laisser refrémir un petit peu cette préparation. Et une fois que ça frémit, on baisse le feu au maximum. D'accord ? Donc on le met au minimum. Et on va incorporer au fouet les 125 grammes de beurre. Donc je vous rappelle que votre beurre doit être coupé en petits morceaux et on va les rajouter petit à petit. Il faut surtout pas que la préparation ne boue. Voilà, parce qu'en fin de compte, ça va plus être un beurre à l'échalote, ça va être autre chose. Donc là, ça va relativement vite. Donc je vous rappelle, on rajoute la crème fraîche, on baisse le feu et on incorpore nos 125 grammes de beurre. Et puis on fouette et on met les petits morceaux de petit à petit. Dès que la sauce est lisse, on va éteindre complètement le feu et on va y rajouter deux pincées de sel, une pincée de poivre et continuer un petit peu à bien mélanger qu'elle reste lisse. Et ça, vous allez le mettre ou dans un bol ou dans une saucière et réserver au chaud. Alors moi, j'aime bien mettre dans une casserole. Ça, c'est une astuce que je vous donne, de l'eau, et vous mettez votre bol dedans. Comme ça, ça reste au chaud. Vous ne faites surtout pas bouillir votre eau. Vous la maintenez à chaud et ça va vous garder votre sauce au chaud. Parce que là, les truites vont être cuites. À la limite, vous les maintenez, tout ça, vous maintenez au chaud, au bain-marie, la sauce, dans le four, votre truite, et puis les brocolis dans votre cuit-vapeur. Voilà, donc le temps de vous laisser un petit peu, le temps de vous, que vous mettiez la table, parce qu'il est bientôt l'heure de passer à table. Donc je vous propose une courte pause musicale, le temps que vous mettiez la table tranquillement et que vous finissiez votre sauce. À tout de suite.
J'ai pas fait semblant, je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai pas fait semblant. Je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai juste laissé le temps courir. Partir, venir, mourir. Courir, partir, venir et mourir. Écoute, we'll
20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Bien, bien, bien. Je pense que votre table est mise. Alors, on va vérifier un petit peu nos œufs. Nathalie, tu peux nous dire.
Il reste moins de 10 minutes pour les œufs.
Alors, une petite astuce pour que savoir si vos œufs au lait sont cuits. Vous prenez un cure-dent en bois et vous allez les planter à l'intérieur. Si il ressort humide, donc avec avec l'appareil dessus, c'est que c'est pas cuit.
D'accord.
S'il ressort par contre sans blanc dessus, c'est que c'est cuit. Et dans ces cas-là, vous les sortez et vous les laissez refroidir. Voilà, alors en ce qui concerne je vous rappelle que notre poisson, notre sauce et nos brocolis sont restés au chaud. Moi j'avais envie de vous donner un petit bonus supplémentaire que vous pourrez faire tout ça toute l'année, mais avec les œufs au lait, c'est quelque chose que vous pouvez présenter, imaginez-vous dans l'assiette, le ramequin de lait aux œufs, et puis il manque un petit peu de couleur. Donc si on rajoute de la couleur, on va faire une glace express. Et cette glace, vous allez pouvoir, enfin c'est un sorbet exactement, puisqu'on va se servir uniquement du fruit. Donc je vous rappelle la différence entre une glace, il y a du lait à l'intérieur et de la crème ou de la crème et puis c'est plus à base de lait et d'œufs et on va trouver ça glace vanille, glace chocolat, glace noisette, alors que sorbet ça sera essentiellement à base de fruits et il n'y aura pas de lait dedans. Voilà, c'est ça la différence, hein. Donc au niveau de la glace et du sorbet. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire partager une recette très facile à faire. À partir du moment où vous avez un mixeur style blender, voilà, un robot qui va vous assez solide, hein, parce que oui. Dedans on va mettre des fruits surgelés. Donc si vous avez des fruits style fruits rouges ou de la fraise, moi j'aime bien la fraise. Vous allez mettre 500 grammes de fraises surgelées dans votre blender, dans votre mixeur, et puis vous allez mettre 50 grammes de sucre glace. Donc c'est important le sucre glace parce que ça va permettre aux fruits et au sucre de se mélanger plus facilement. Donc ça, vous allez le mixer très fortement pendant à peu près, on va dire, une minute pour que ce mélange fruits surgelés et glas et sucre soit homogène. Une fois que vous avez fait mixer tout ça, l'astuce pour que ça double de volume et que ça soit onctueux et que vous puissiez garder ce sorbet quelques mois au congélateur, vous allez rajouter un blanc d'œuf, tout simplement. Donc tout de suite, quand c'est mixé au bout d'une minute, vous rajoutez ce blanc d'œuf et vous le mixez pendant 2-3 minutes fortement. Et vous allez voir que votre appareil, ce mélange de fruits surgelés et de sucre et avec le blanc d'œuf, le blanc va monter en neige en quelque sorte, mais va faire gonfler votre appareil. Et une fois que vos deux minutes sont passées, vous le mettez tout de suite dans une boîte en plastique et vous remettez ça au congélateur, tout simplement. Et au moment de passer à table, vous servez les boules par-dessus votre crème aux œufs, par exemple, vos œufs au lait. Ça fait tout de suite de la couleur. Vous pouvez aussi, plutôt que de le mettre dans des bacs en plastique, mettre tout de suite dans des verrines. Alors, important, si vous les mettez dans des verrines prêtes à l'emploi, vous filmez, parce que le congélateur va toujours sécher le début et les bienfaits de ce sorbet va perdre tout son effet. Voilà, et risque de changer aussi de couleur. Donc bien filmer vos verrines. Et vous verrez que sur une présentation de verrines avec de ramequins avec vos œufs au lait, plus un petit ramequin, une petite verrine de sorbet, vous allez faire ça, c'est une tuerie. Alors pour le peu que vous ayez une pointe, une feuille de menthe à mettre dessus, parce que dans le jardin vous avez de la menthe, vous mettez une pointe de feuille de menthe dessus sur votre assiette, et voilà, le tour est joué, vous avez une superbe présentation et c'est super chouette et c'est beau à l'œil. Et on dit toujours, hein, si c'est beau à l'œil, c'est beau dans le cerveau et c'est beau dans l'estomac. Voilà, donc encore une petite astuce. Alors, écoutez, là, je pense qu'on n'est pas loin de la fin de l'émission. Il nous reste 10 minutes. Nos œufs au lait sont, je pense, pratiquement...
Il reste encore... il reste les 10 minutes à peu près. Hein,
voilà, écoutez, ça sera parfait. Juste en ce qui concerne votre truite, au moment de servir... Donc, je dis bien au moment de servir, vous enlevez le papier aluminium, c'est mieux. vous allez verser votre sauce par-dessus. Et puis, n'oubliez pas de mettre les brocolis dans un saladier et puis de servir tout ça très, très chaud. Donc là, vous avez le temps largement, tranquillement de préparer tout ça. Vous allez pouvoir déguster tous ensemble, en famille, entre amis, toutes les nouvelles recettes que vous venez d'accomplir. Et puis, moi, il ne me reste plus grand-chose à vous dire. On a tout prêt. Donc on est en fin d'émission. Il me reste une chose à vous dire. La semaine prochaine, on va faire un menu un petit peu de roi, puisqu'on va arriver sur le week-end de Pâques. Je peux déjà vous dire un petit peu ce qu'on va faire, et comme ça vous allez pouvoir faire vos courses sans attendre le vendredi. On va faire ensemble des rillettes aux deux saumons. Donc pour cela vous aurez besoin de 30 grammes de saumon fumé. 300 grammes de saumon fumé, 500 grammes de saumon frais, 10 grammes de ciboulette ciselée, 10 grammes d'aneth, une cuillère à soupe de crème fraîche, un filet d'huile d'olive, une pincée de sel, une pincée de poivre rose. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, on prendra du poivre normal, et un jus de citron. Et puis on va faire aussi de la blanquette de veau. Donc pour cela, vous aurez besoin de 600 g de poitrine et épaules de veau, un poireau, une carotte, un oignon piqué d'un clou de girofle, un bouquet garni. Donc pour Théo qui, s'il est jamais, il a oublié, c'est du thym et du laurier, 2 pincées de sel, 5 baies de poivre, 200 g de champignons, 200 g de riz, une noix de beurre, une grosse pincée de gros sel, un deuxième filet d'olive, 40 g de beurre, 40 g de farine, 500 ml de jus de cuisson de blanquette, ça vous verrez pendant la recette, un jus de citron, un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de crème fraîche, et nous allons préparer un tiramisu spéculoos. Donc je sais que d'habitude vous avez l'habitude des tiramisu au chocolat, tiramisu café, tiramisu ceci, tiramisu cela. Et ben écoutez, moi ça va être un tiramisu spéculoos parce que je suis du Nord et que c'est une recette extrêmement facile. Pour cela vous aurez besoin de 2 œufs, 150 g de sucre, 500 g de mascarpone et 20 spéculoos. Et puis, ben, comme vous avez vu certainement ou entendu que j'utilisais un jaune d'œuf, ben, on va faire avec le blanc d'œuf une meringue. Donc un blanc d'œuf, 30 g de sucre glace, 30 g de sucre en poudre. Voilà le menu pour la semaine prochaine. Ben, écoutez, nous arrivons à la fin de notre émission. Il ne vous reste plus qu'à déguster en famille ou entre amis tous les plats que vous avez préparés. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour. En attendant, je vous souhaite un très bon appétit, une très belle soirée et surtout, prenez soin de vous. On vous embrasse.